Vous écoutez RTL.
3 minutes pour comprendre.
7h17, attention aux documents ce matin. À la veille du sommet de Minsk sur l'Ukraine, RTL a pu pénétrer dans le Saint-Dessin, en l'occurrence à l'Elysée. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
Vous avez passé toute la journée d'hier à l'Elysée, jusque dans le bureau du président de la République, où vous avez assisté aux échanges entre le chef de l'État et ses conseillers militaires et diplomatiques. Rappelons que François Hollande s'envole tout à l'heure pour la Biélorussie. On parle de sommet de la dernière chance.
Oui, et pendant que François Hollande était le matin sur d'autres dossiers avec Louis Schweitzer, le commissaire à l'investissement, ou Didier Migaud, le président de la Cour des comptes. Je vous emmène tout d'abord en Falcon, celui qui est parti hier matin de la base militaire de Villacoublay. À son bord, ce qu'on appelle les précurseurs, une dizaine de personnes chargées de préparer le voyage présidentiel. Il y a là des hommes de la sécurité qui vont repérer les salles et les lieux de passage du président, un médecin, des chargés de com, et les deux négociateurs en chef, dont Jacques Audibert, son conseiller diplomatique.
Le rôle est de préparer le terrain pour que les chefs d'État et de gouvernement, lorsqu'ils entreront en réunion, aient une peinture exacte de la situation et sachent exactement les questions qui restent ouvertes et celles qu'il faut encore trancher, qui nécessitent une décision politique du plus haut niveau.
Alors, pour ne pas fâcher, on ne parle ni Mistral, ni OTAN, ni Crimée. Cela fait des jours qu'avec Fabien Pennon, le spécialiste Ukraine et Russie de l'Elysée, il va de capitale en capitale en tentant en permanence, en tenant en permanence au courant le président pour tenter d'arracher cet accord.
Et ces négociateurs, ça leur arrive avec la fatigue de se montrer excédés ?
Jamais. Même quand c'est difficile, il n'est jamais question de s'énerver face à des interlocuteurs qui peuvent pourtant être parfois, disons, pas vraiment de bonne foi.
On a toujours, face à toutes les attitudes, même les plus rébarbatives, les plus négatives, notre posture là est de trouver la voie positive. On est là pour trouver une solution quoi qu'il arrive. Alors on en trouvera une ou pas, ça c'est un autre sujet, mais on n'a pas le droit de louper la moindre opportunité, pas le moindre interstice, et donc on ne peut pas se permettre de se dire « celui-là il m'agace ». Non, non.
Et quand on est épuisé ?
Eh bien on prend un café.
Voilà, et dans son bureau, Jacques Audibert a une affiche où il est écrit « Keep calm and carry on », autrement dit « Restez calme et continuez ».
Et le président pendant ce temps-là ?
Alors, en train de déjeuner avec le président roumain, qui a tout de même 100 km de frontière commune avec l'Ukraine, et un rendez-vous avec le représentant du Kurdistan d'Irak, il se tient en permanence informé. Je vous invite maintenant au premier étage de l'Elysée, où son chef d'état-major particulier, le général Benoît Pugat.
Alors mon général, sur le point de la situation militaire.
Viens le voir en fin d'après-midi dans son bureau avec une carte de l'Ukraine pour faire un point de la situation sur le terrain.
Du côté des forces ukrainiennes, elles ont beaucoup de difficultés à utiliser l'arme aérienne parce que le dispositif anti-aérien déployé par les séparatistes et sans doute avec l'aide ou les conseils en tout cas des Russes est particulièrement efficace.
La crainte que l'on avait en début de semaine, c'était que des bases Slevo puissent être bouclées par les forces séparatistes et que les Ukrainiens de Kiev puissent être prisonniers dans cette partie-là du territoire. Chaque camp essaye d'arriver dans la position de force la plus intéressante pour que le cessez-le-feu se fasse sur la base de ce qu'on constatera.
Exactement.
Entre-temps, le Falcon dans lequel nous étions tout à l'heure est arrivé à Minsk et son Sherpa, Jacques Audibert, rencontre au président.
Jacques.
Bonjour, monsieur le président.
Pour lui donner la température.
On a eu des discussions pour vérifier les progrès dont je vous parlais hier.
Pour que la discussion et la négociation s'engagent, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un texte ou que nous serons encore sur des formules doubles, c'est-à-dire un texte russe ? Non, on aura un texte.
Sauf s'ils reviennent en arrière, ce qu'on ne peut jamais exclure, on a un texte unique maintenant.
Ça, c'est un point très important.
On a un texte consolidé.
Donc vous allez y passer une partie de la nuit ?
Oui, monsieur le président.
Ça me rassure.
Un président apparemment rassuré qui part donc aujourd'hui pour la Biélorussie, Christophe.
Oui, mais avant cela, le Conseil des ministres, à l'issue duquel il verra Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Il arrivera en fin d'après-midi à Minsk pour y rejoindre Angela Merkel, Petro Poroshenko et Vladimir Poutine. Il espère réussir, mais quand je lui demande ce qui va se passer si ça ne marche pas, la réponse est directe.
S'il n'y a pas d'accord, ce sera la guerre qui concerne bien sûr l'Ukraine, mais qui à un moment est à nos portes, et on ne peut pas s'en satisfaire en pensant que ça n'aura pas de conséquences ici. Et puis deuxièmement, il y a un Conseil européen le jeudi, et avec sans doute à la clé des sanctions, si il n'y avait rien qui était sorti de notre réunion de la dernière chance.
Réponse la nuit prochaine.
Merci Christophe Decroix pour ce document vraiment étonnant, entre guerre et paix. Vous l'avez entendu dans les coulisses de la dernière chance, document à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. 3 minutes pour comprendre l'actualité tous les matins sur RTL.